mis à part les masochistes qui sont des gens très particuliers parce qu'ils prennent leur plaisir dans la douleur. Les personnes normalement constituées n'aiment pas recevoir des coups de bâton. Malheureusement, et comme le dit si bien Job, l'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Bouddha aussi aurait dit « Souffrir, c'est la vie, et la vie, c'est souffrir. » Souffrir est effectivement le lot de tout être humain, et les enfants de Dieu n'en sont pas exempts. Dans le chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux, l'auteur écrit que face à l'épreuve, le croyant peut avoir plusieurs réactions différentes. Premièrement, la prendre à la légère, c'est-à-dire la rejeter, ne pas en tenir compte. C'est un peu l'attitude fataliste qui dit « tout le monde a des ennuis, et moi aussi ». Deuxièmement, il peut se décourager et se lamenter en disant « mais qu'est-ce que j'ai donc fait au bon Dieu pour que cette huile me tombe sur la tête, alors que je ne la méritais pas ?» Troisièmement, il peut aussi supporter l'adversité et la considérer sous un aspect positif, sachant qu'elle vient de Dieu, dont l'objectif pour tous ses enfants est qu'ils apprennent à vivre d'une manière juste et dans la paix. Suite à ces déclarations, l'auteur poursuit et dit « C'est pourquoi, relevez vos mains qui faiblissent, et raffermissez vos genoux qui fléchissent. » Cette citation est tirée du livre d'Ésaïe. « C'est pourquoi » est l'une des nombreuses transitions utilisées dans les Écritures pour marquer le passage entre l'enseignement d'une vérité et son application pratique dans la vie courante. Il ne suffit pas, en effet, de posséder le savoir, ni même le dire. Encore, faut-il le faire ? Après avoir longuement expliqué et illustré ce qu'est la vraie foi, l'auteur dit en substance « Maintenant, foncez !» En mentionnant les mains qui faiblissent et les genoux qui fléchissent, l'auteur utilise encore la course à pied comme métaphore. En effet, quand on court, il n'y a pas que les jambes qui sont sollicitées. L'action des bras est importante, parce qu'elle sert à coordonner le mouvement du corps avec le rythme des pas. Or, les bras qui faiblissent sont le premier signe de fatigue d'un coureur. Le second signe est la foulée qui ralentit à cause des genoux qui sont de plus en plus lourds à soulever. La solution est alors de se concentrer sur le but visé. Comme le coureur grec, en l'honneur de qui on a créé le marathon, brûlant d'impatience d'annoncer à ses concitoyens la victoire sur les Perses, il a couru aussi vite que possible, épuisant jusqu'aux dernières de ses forces, au point où, après avoir fait l'annonce de la victoire grecque, il est tombé à raide mort. Aux Israélites découragés par l'état décadent de leur nation et l'annonce du jugement imminent, le prophète Ésaïe leur rappelle la venue du royaume millénaire, où ils verront la gloire de Dieu, et il ajoute « Fortifiez vos mains défaillantes, affermissez les genoux chancelants. » Le croyant engagé dans la course de la vie chrétienne et qui se sent faiblir peut se ressaisir en agissant à deux niveaux. D'une part, en gardant les yeux fixés sur Jésus. Il nous a ouvert le chemin de la foi et qui l'apporte à la perfection. Comme l'a dit l'auteur au début de ce chapitre, et d'autre part, en encourageant les frères et sœurs à faire de même. En effet, précédemment, l'auteur a dit « Encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. Lorsque j'encourage quelqu'un à persévérer, je me parle à moi-même. » Je continue le texte. Que vos pieds suivent des pistes droites pour votre course, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt qu'il se raffermisse. Nous sommes toujours dans la métaphore de la course à pied. Le mot pour piste décrit la trace des roues d'un chariot laissé sur le chemin. L'auteur demande donc à chaque participant de la course chrétienne de rester dans son couloir, sachant que celui qui en sort est automatiquement disqualifié. Une sentence des sages tirée du livre des Proverbes dit « Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi, aplanis la route par où tu passes et que toutes tes voies soient bien assurées. Ne dévie ni à droite ni à gauche, écarte ton pied du mal. Que vos pieds suivent des pistes droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas. » Le mot pour boiteux est aussi utilisé dans l'ancienne version grecque, la Septante, quand le prophète Élie dit au peuple « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le, mais si c'est Baal, suivez-le. » Le prophète reproche alors à ses compatriotes d'être assis entre deux chaises, d'hésiter entre l'Éternel et l'idole Baal, et il veut qu'ils choisissent leur camp. Ici, l'auteur s'adresse à des Hébreux qui disent croire en Jésus et le Messie, mais qui gardent encore un pied dans le judaïsme pour éviter les persécutions dont ils feront l'objet s'ils abandonnent complètement la religion juive. Ce sont des sympathisants chrétiens, mais ils vont manger à plusieurs râteliers en quelque sorte. L'auteur considère leur pas hésitant vers Jésus-Christ et les exhorte à les transformer en grandes enjambées, à s'engager résolument dans la course de la foi. Je continue le texte. Recherchez à être en paix avec tout le monde et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. L'auteur exhorte ses lecteurs à ne pas avoir de conflit avec tous ceux qu'ils côtoient, croyants ou pas. Dans sa seconde lettre à Timothée, l'apôtre Paul écrit « Il n'est pas convenable pour un serviteur du Seigneur d'avoir des querelles, qu'il se montre au contraire aimable envers tout le monde. Si je suis obligé d'être en compagnie de gens belligérants, c'est leur problème. Et ça ne me donne pas une excuse pour agir comme eux. Recherchez la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Pour avoir accès à Dieu, il faut être absolument parfait sur toutes les coutures. Seulement, il n'existe personne qui corresponde à ce profil. La sanctification est de deux ordres. Sont déclarés sanctifiés ou saints et justes tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus parce que leur position est dorénavant en Christ. Deuxièmement, la sanctification est aussi un processus auquel tous les croyants participent. Il consiste à devenir de plus en plus saint dans la pratique, dans sa façon de vivre ici-bas, sur terre. Quand l'auteur dit « Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur », il rappelle aux Hébreux qui sont des sympathisants chrétiens, que leur allégeance de surface ne fait pas d'eux des saints, et donc qu'il leur faut s'engager franchement pour le Christ. Je continue le texte. Veillez à ce que personne ne soit exclu de la grâce de Dieu, qu'aucune racine empoisonnée ne produise des rejetons, cause du trouble et n'infecte plusieurs autres. Les vrais croyants doivent être sur le qui-vive envers ceux qui se joignent à eux, mais qui ne sont que des spectateurs. Afin de les aider à prendre conscience des enjeux de la foi et à placer leur confiance en Jésus seul. Ce passage vise les Hébreux qui se bercent d'illusions, qui pensent être chrétiens sans l'être vraiment. Non seulement, les vrais croyants doivent prendre en charge ceux qui ne le sont pas encore, mais il faut aussi qu'ils sanctionnent les brebis galeuses. Il suffit d'une pomme pourrie dans un panier pour contaminer toutes les autres. Dans le livre du Deutéronome, on lit que Moïse a dit au peuple d'Israël « Qu'il n'y ait donc parmi vous personne, ni homme ni femme, ni famille ni tribu, dont le cœur se détourne dès aujourd'hui de l'Éternel notre Dieu, pour aller rendre un culte au Dieu des nations. Craignez qu'il n'y ait pas parmi vous une racine d'où naîtraient des plantes aux fruits vénéneux et amers. L'auteur exprime la même idée quand il dit « Veillez à ce qu'aucune racine empoisonnée ne produise des rejetons, cause du trouble et n'infecte plusieurs autres. » Cet avertissement s'adresse aux Hébreux qui s'identifient aux croyants, mais dont le cœur n'est pas droit parce qu'ils n'ont jamais vraiment quitté le paganisme. Ici, l'auteur est particulièrement sévère, car il assimile les Hébreux qui gardent un pied dans le judaïsme à des idolâtres. Lorsque des apostats quittent l'Église d'eux-mêmes, tout est bien qui finit bien, car la purification se fait d'elle-même. Par contre, s'ils restent dans l'Assemblée et tentent de répandre le poison de leurs fausses croyances, la situation est très grave. L'apôtre Paul est souvent confronté à de tels agents infectieux qui appellent des judaïsants. Ces mauvaises graines disent bien croire en Jésus-Christ, mais enseignent qu'il faut aussi obéir aux préceptes de la loi de Moïse. Je continue le texte du chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux. Veillez à ce qu'il n'y ait personne qui vive pour satisfaire la chair, ou qui méprise les choses saintes, comme Ésaü qui, pour un simple repas, a vendu son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, lorsqu'il a voulu recevoir la bénédiction de son père, il a été rejeté, car il n'a trouvé aucun moyen d'amener son père à revenir sur ce qu'il avait fait, bien qu'il l'ait cherché en pleurant. Selon les Écritures, Ésaïe est un triste personnage, presque aussi ignoble que Judas. Le péché de tous deux est d'avoir résolument rejeté le don de Dieu en étant conscient de leurs actions. Il va sans dire que Ponce Pilate est un sale type, un arriviste, un opportuniste, un faible, mais selon les paroles mêmes de Jésus que nous rapporte Jean, sa culpabilité est moindre que celle de Judas. Tout comme ce dernier, la folie d'Ésaü se transforme en désespoir parce qu'il ne peut pas changer ce qu'il a fait. Ésaü est une brute épaisse, sans scrupules, qui n'a aucune révérence pour Dieu. Il est parfaitement mondain avant que ce mot existe, car il vit uniquement pour le présent et pour satisfaire ses sens. Sa philosophie est « mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». Quand Ésaü se réveille de sa torpeur et se rend compte qu'il a perdu la bénédiction liée à son statut de premier-né, il fait des pieds et des mains pour la récupérer. Mais c'est trop tard, car son choix est irréversible et scelle son destin. Alors, il verse des torrents de larmes, pas de repentance, parce qu'il est incapable. Non, ce sont des larmes de dépit parce qu'il a perdu l'héritage qui aurait dû lui revenir. Je continue le texte. Car vous ne vous êtes pas approchés comme des Israélites au désert d'une réalité que l'on pourrait toucher. Un feu qui brûlait, de sombres nuées, des ténèbres et des ouragans. Vous n'avez pas entendu de sonnerie de trompette, ni l'éclat d'une voix telle que ceux qui l'ont entendu ont demandé qu'on ne s'adresse plus à eux. En effet, ils ne pouvaient supporter l'ordre qui leur avait été donné. Quiconque touchera la montagne même, si c'est un animal, sera tué à coups de pierre. Le spectacle était si terrifiant que Moïse s'est écrié « Je suis épouvanté et tout tremblant ». Non, vous, au contraire, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, avec ses milliers d'anges en fête. Tout être humain sera jugé par la loi, soit par la grâce, selon ses propres accomplissements ou en fonction de l'œuvre du Christ. Selon le livre de l'Apocalypse, Dieu a deux livres. Dans le premier sont écrits les noms de ceux qui n'ont pas accepté Jésus comme sauveur. Ils seront donc jugés selon leur propre justice. Le second est le livre de la vie ou de l'agneau. Et il contient les noms de ceux qui ont accepté Jésus. Or, comme ils ont placé leur confiance en lui, ils seront mesurés selon sa justice et non selon la leur. L'ancienne alliance est associée au mont Sinaï parce que c'est là que Dieu a donné la loi aux Israélites. Ses dispositions sont implacables et il faut leur obéir sous peine de sanction et même de mort. Le don de la loi donna lieu à l'un des spectacles les plus terrifiants rapportés dans les Écritures. Par contre, sous le régime de la Nouvelle Alliance, l'auteur dit « Vous ne vous êtes pas approchés de cette montagne, un feu qui brûlait, de sombres nuées, des ténèbres et un ouragan. » Il établit ainsi un contraste entre l'alliance terrestre conclue sous le signe du jugement sur une montagne qui est impossible à gravir et la Jérusalem céleste, qui symbolise la Nouvelle Alliance. Le don de la loi s'est fait au milieu de diverses restrictions imposées par l'Éternel. Les Israélites sont d'abord obligés de se purifier, et en un coca, ils doivent, et ne serait-ce que toucher le bord du mont Sinaï. Dieu a conduit les Israélites en plein désert et loin de toute distraction, afin de leur manifester sa puissance et sa sainteté. Dans ce but, il déclenche un tremblement de terre, fait gronder le tonnerre, lance des éclairs, et il voile la montagne d'une épaisse nuée de ténèbres. Par ces manifestations, Dieu veut que son peuple prenne conscience de ses fautes et comprenne qu'il est impossible à l'homme pécheur de s'approcher de lui. Au peuple terrifié, Moïse dit, « N'ayez pas peur. Si Dieu est venu ainsi, c'est pour vous mettre à l'épreuve et pour que vous le révériez afin de ne pas pécher. » Le Dieu du mont Sinaï est à craindre, car il est accompagné de jugements. Il est tellement redoutable que même le grand Moïse s'écrie « Je suis épouvanté et tout tremblant » en évoquant les circonstances du don de la loi. L'auteur de l'Épître avertit les Hébreux qui songent peut-être à retourner aux pratiques du judaïsme qu'ils se placent à nouveau sous l'ancienne alliance faite de prescriptions obligatoires et de jugements. Au pied du mont Sinaï se trouve l'homme pécheur non pardonné qui se tient devant un Dieu infiniment saint et parfaitement juste. Coupable et indigne, l'homme ne peut rien attendre d'autre que la condamnation et la mort. Comme l'a dit l'auteur précédemment, il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Quand la loi a été ordonnée au peuple d'Israël, 3000 d'entre eux furent exécutés à cause de leur acte d'idolâtrie. Par contre, le jour de la Pentecôte, 3000 juifs acceptèrent Jésus et furent sauvés. La mort accompagne la loi tandis que l'annonce de la bonne nouvelle apporte la vie à tous ceux qui croient. La loi est le miroir de Dieu. En le regardant, on se voit tel qu'on est et je constate que je ne suis pas très beau et incapable d'obéir d'une façon absolue à un seul commandement, que ce soit en pensée ou en acte. Or, la loi ne fait aucune exception et n'accepte pas la moindre excuse pour mon obéissance moins que parfaite. La loi m'écrase et me tue à cause du péché qui est en moi. Aux Galates, l'apôtre Paul écrit « Ceux qui comptent sur leur obéissance à la loi tombent sous le coup de la malédiction, car il est écrit « Maudit soit l'homme qui n'obéit pas continuellement à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. » Je continue le texte. Non, vous au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, avec ses milliers d'anges en fête. Alors que les Yéboussiens, descendants de Canaan, fils de Noé, occupent la partie montagneuse du sud de la Palestine, Josué tue leur roi, incendient Yébus, leur capitale, et donnent leur territoire à la tribu de Benjamin. Mais les Yébusiens se maintiennent dans la citadelle, la partie fortifiée de leur capitale, et cela jusqu'à ce que David devienne roi. Finalement, il s'en empare et en fait sa capitale qui devient Jérusalem. Depuis cette date, Dieu en fait sa résidence terrestre. Dans le psaume 132, on lit « L'Éternel a fait choix de Sion, oui, il l'a désiré pour résidence. C'est le Dieu de ma paix où je résiderai toujours. C'est ici que je régnerai, dans Sion que j'ai désiré. » Jérusalem se trouve sur le mont Sion, qui est un synonyme pour la ville sainte. La loi est représentée par le mont Sinaï, qui offre un spectacle terrifiant, et quiconque en touche, ne serait-ce que les abords, est frappé de mort. Par contre, la grâce et la nouvelle alliance sont symbolisées par la montagne de Sion, et tous ceux qui le veulent peuvent s'approcher de Sion, parfaite en beauté, Dieu resplendit sur le mont Sion. L'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. L'apôtre Paul utilise aussi le mont Sinaï et Jérusalem pour illustrer l'ancienne et la nouvelle alliance. Deux différents types de relations avec Dieu. Aux Galates, il écrit « Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère et encore, nous sommes enfants de la femme libre. » Par définition, la loi est faite de commandements qui, s'ils ne sont pas respectés, entraînent le jugement. Il s'ensuit que personne ne peut trouver le salut en obéissant à la loi. Par contre, et comme son nom l'indique, la grâce porte en elle le pardon et le salut. N'importe qui peut être sauvé par la grâce. Quand l'auteur dit « Vous vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste. » Il s'adresse aux Hébreux qui sont déjà croyants, mais aussi à ceux qui sont assis entre deux chaises afin de les encourager à marcher droit devant eux, pour ainsi dire, et de ne pas faire marche arrière pour retourner aux pratiques du judaïsme. C'est son souci constant et permanent tout au long de l'Épître. La montagne de Sion, la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, sont trois images du royaume des cieux. Précédemment, dans le chapitre 11, l'auteur a dit d'Abraham qu'il attendait la cité au fondement inébranlable dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Cette cité est la Jérusalem céleste, aussi appelée Nouvelle Jérusalem. Dans le livre de l'Apocalypse, ce sera la demeure spirituelle de tous les rachetés pour l'éternité. C'est aussi là qu'est leur héritage. Ici-bas, les croyants ne sont que des ambassadeurs, car leur véritable citoyenneté est dans les cieux. Enfin, l'auteur dit aussi « Vous vous êtes approchés de la Jérusalem céleste avec ses milliers d'anges en fête. » Selon les Écritures, il existe un nombre astronomique d'anges qui habitent les cieux. Dans le livre de Daniel et de l'Apocalypse, on lit « Des millions d'êtres le servaient et des centaines de millions se tenaient debout devant lui. Ils étaient des milliers, des milliers, des millions de millions. » Pendant toute l'éternité, les rachetés se joindront aux anges pour louer l'agneau de Dieu, leur sauveur.